Chapitre 27. Quand, à la caisse, on lui remit, après l'avoir examinée des pieds à la tête, la fiche annoncée par M. Vulfranc, elle sortit de l'usine en se demandant où demeurait cette Madame Lachaise. Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du magasin où elle avait acheté son calicot, parce que, la connaissant déjà, elle eût été moins gênée pour la consulter sur ce qu'elle devait prendre. Question terrible qu'aggravait encore le dernier mot de M. Vulfranc. « Ton choix me fixera sur ton caractère. » Sans doute, elle n'avait pas besoin de cet avertissement pour ne pas se jeter sur une toilette extravagante. Mais encore, ce qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour M. Vulfranc ? Dans son enfance, elle avait connu les belles robes et elle en avait porté dans lesquelles elle était fière de se pavaner. Évidemment, ce n'était point des robes de ce genre qu'il convenait présentement. Mais les plus simples qu'elle pourrait trouver conviendraient-elles mieux ? On lui eût dit la veille, alors qu'elle souffrait tant de sa misère, qu'on allait lui donner des vêtements et du linge, qu'elle n'eût certes pas imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait pas de joie, et cependant, l'embarras et la crainte l'emportaient de beaucoup en elle sur tout autre sentiment. C'était place de l'église que Madame Lachaise avait son magasin, incontestablement le plus beau, le plus coquet de Maraucourt, avec une montre d'étoffe, de rubans, de lingerie, de chapeaux, de bijoux, de parfumerie, qui éveillait les désirs, allumait les convoitises des coquettes du pays et leur faisait dépenser là leurs gains, comme les pères et les maris dépensaient les leurs au cabaret. Cette montre augmenta encore la timidité de Perrine, et comme l'entrée d'une déguenillée ne provoquait les prévenances ni de la maîtresse de maison, ni des ouvrières qui travaillaient derrière un comptoir, elle resta un moment indécise au milieu du magasin, ne sachant à qui s'adresser. À la fin, elle se décida à élever l'enveloppe qu'elle tenait dans sa main. « Qu'est-ce que c'est, petite ?» demanda Madame Lachaise. Elle tendit l'enveloppe qui, à l'un de ses coins, portait imprimée la rubrique « Usine de Maraucourt, Vulfranc, pain d'avoine ». La marchande n'avait pas lu l'affiche entière que sa physionomie s'éclaira du sourire le plus engageant. « Et que désirez-vous, mademoiselle ? » demanda-t-elle en quittant son comptoir pour avancer une chaise. Perrine répondit qu'elle avait besoin de vêtements, de linge, de chaussures, d'un chapeau. « Nous avons tout cela et de premier choix. Voulez-vous que nous commencions par la robe ? Oui, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer des étoffes, vous allez voir. » Mais ce n'était point des étoffes qu'elle voulait voir, c'était une robe toute faite qu'elle put revêtir immédiatement, ou tout au moins le soir même, afin de pouvoir sortir le lendemain avec M. Vulfranc. « Ah ! Vous devez sortir avec M. Vulfranc ? » dit vivement la marchande, dont la curiosité se trouvait surexcitée par cet étrange propos, qui la faisait se demander ce que le tout-puissant maître de Maraucourt pouvait bien avoir à faire avec cette bohémienne. Mais, au lieu de répondre à cette interrogation, Perrine continua ses explications pour dire que la robe dont elle avait besoin devait être noire parce qu'elle était en deuil. « C'est pour aller à l'enterrement, cette robe ?»« Non. » « Vous comprenez, mademoiselle, que l'usage auquel vous devez employer votre robe dit ce qu'elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix. » « La forme la plus simple, l'étoffe solide et légère, le prix le plus bas. » « c'est bien, répondit la marchande. On va vous montrer. Virginie, occupez-vous de mademoiselle. » Comme le ton avait changé, les manières changèrent aussi. Dignement, Madame Lachaise reprit sa place à la caisse, dédaignant de s'occuper elle-même d'une acheteuse qui montrait de pareilles dispositions. Quelques filles de domestiques, sans doute, à qui M. Vulfranc faisait l'aumône d'un deuil, et encore, quel domestique! Cependant, comme Virginie apportait sur le comptoir une robe en cachemire, garnie de passementerie et de jais, elle intervint. « Cela n'est pas dans les prix, dit-elle. Montrez la jupe avec la blouse en indienne noire à pois. La jupe sera un peu longue, la blouse un peu large, mais avec un rempli et des pinces, le tout ira à merveille. Au reste, nous n'avons pas autre chose. » C'était là une raison qui dispensait des autres. D'ailleurs, malgré leur taille, Perrine trouva cette jupe et cette blouse très jolies, et puisqu'on lui assurait qu'avec quelques retouches elles iraient à merveille, elle devait le croire. Pour les bas et les chemises, le choix était plus facile, puisqu'elle voulait ce qu'il y avait de moins cher. Mais quand elle déclara qu'elle ne prenait que deux paires de bas et deux chemises, Mademoiselle Virginie se montra aussi méprisante que sa patronne, et ce fut par grâce qu'elle daigna montrer les chaussures et le chapeau de paille noire qui complétaient l'habillement de cette petite niaise. Avait-on idée d'une sottise pareille? Deux paires de bas, deux chemises, et quand Perrine demanda des mouchoirs de poche qui depuis longtemps étaient l'objet de ses désirs, ce nouvel achat, limité d'ailleurs à trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de la patronne, ni celui de la demoiselle de magasin. Moins que rien, cette petite. Et maintenant, est-ce qu'il faudra vous envoyer ça ? Demanda Madame Lachaise. Je vous remercie, madame, je viendrai le chercher ce soir. Pas avant 8 heures, pas après 9. Perrine avait cette bonne raison de ne pas vouloir qu'on lui envoyât ses vêtements, qu'elle ne savait pas où elle coucherait le soir. Dans son île, il n'y fallait pas songer. Qui n'a rien se passe de portes et de serrures, mais la richesse, car malgré le dédain de cette marchande, ce qu'elle venait d'acheter constituait pour elle de la richesse, a besoin d'être gardée. Il fallait donc que la nuit suivante, elle eût un logement, et tout naturellement, elle pensa à le prendre chez la grand-mère de Rosalie, et en sortant de chez Madame Lachaise, elle se dirigea vers la maison de Mère Françoise pour voir si elle trouverait là ce qu'elle désirait, c'est-à-dire un cabinet ou une toute petite chambre qui ne coûtât pas cher. Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit Rosalie sortir d'une allure légère. « Vous partez ? Et vous, vous êtes donc libre ?» En quelques mots précipités, elles s'expliquèrent. Rosalie, qui allait à Piquigny pour une commission pressée, ne pouvait pas rentrer chez sa grand-mère immédiatement comme elle l'aurait voulu, de façon à arranger pour le mieux la location du cabinet. Mais puisque Perrine n'avait rien à faire de la journée, pourquoi ne l'accompagnerait-elle pas à Piquigny ? Elles reviendraient ensemble, ce serait une partie de plaisir. Rapide à l'aller, cette partie de plaisir, une fois la commission faite, s'agrémenta si bien au retour de bavardage, de flânerie, de courses dans les prairies, de repos à l'ombre, qu'elles ne rentrèrent que le soir à Maraucourt. Ce fut seulement en passant la barrière de sa grand-mère que Rosalie eut conscience de l'heure. « Qu'est-ce que va dire tante Zénobie ?»« Dame !» « Ma foi, tant pis, je me suis bien amusée. Et vous ?»« Si vous vous êtes amusée, vous qui avez avec qui vous entretenir toute la journée, pensez ce qu'a été notre promenade pour moi qui n'ai personne. »« C'est vrai tout de même. » Heureusement, la tante Zénobie était occupée à servir les pensionnaires, de sorte que l'arrangement se fit avec la mère Françoise, ce qui permit qu'il se conclût assez promptement sans être trop dur. 50 francs par mois pour 2 repas par jour, 12 francs pour un cabinet orné d'une petite glace avec une fenêtre et une table de toilette. À 8 heures, Perrine dînait seule à sa table dans la salle commune, une serviette sur ses genoux. À 8h30, elle allait chercher ses vêtements qui se trouvaient prêts. Et à 9h, dans son cabinet dont elle fermait la porte à clé, elle se coucha un peu troublée, un peu grisée, la tête vacillante, mais au fond pleine d'espoir. Maintenant, on allait voir. Ce qu'elle vit le lendemain matin, lorsqu'après avoir donné ses ordres à ses chefs de service, qui l'appelaient par une sonnerie au cou numéroté dans le tableau électrique du vestibule, M. Vulfranc la fit venir dans son cabinet. Ce fut un visage sévère qui la déconcerta, car, bien que les yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée fussent sans regard, elle ne put se méprendre sur l'expression de cette physionomie qu'elle connaissait pour l'avoir longuement observée. Assurément, ce n'était pas la bienveillance qu'exprimait cette physionomie, mais plutôt le mécontentement et la colère. Qu'avait-elle donc fait de mal qu'on pût lui reprocher ? À cette question qu'elle se posa, elle ne trouva qu'une réponse. Ses achats chez Madame Lachaise étaient exagérés. D'après eux, M. Vulfranc jugeait son caractère. Et elle, qui s'était si bien appliquée à la modération et à la discrétion. Que fallait-il donc qu'elle achetât, ou plutôt n'achetât point ? Mais elle n'eut pas le temps de chercher, M. Vulfranc lui adressait la parole d'un ton dur. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?»« À propos de quoi ne vous aurais-je pas dit la vérité ? » demanda-t-elle effrayée. « À propos de ta conduite depuis ton arrivée ici ?» « Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure que je vous ai dit la vérité. »« Tu m'as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en partant de chez elle, où as-tu été ? Je te préviens que Zénobie, la fille de Françoise, interrogée hier par quelqu'un qui voulait avoir des renseignements sur toi, a dit que tu n'as passé qu'une nuit chez sa mère et que tu as disparu sans que personne sache ce que tu as fait depuis ce temps-là. » Perrine avait écouté le commencement de cet interrogatoire avec émoi, mais à mesure qu'il avançait, elle s'était affermie. « Il y a quelqu'un qui sait ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté la chambrée de mère Françoise. »«
Qui ?»«
Rosalie, sa petite fille, qui peut vous confirmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez que ce que j'ai pu faire depuis ce jour mérite d'être connu de vous. »«
La place que je te destine auprès de moi exige que je sache ce que tu es. »
« Eh bien, monsieur, je vais vous le dire. Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie, vous l'interrogerez sans que je l'aie vue, et vous aurez la preuve que je ne vous ai pas trompé. »
« Cela peut en effet se faire ainsi, » dit-il d'une voix adoucie. « Raconte donc. »
Elle fit ce récit en insistant sur l'horreur de sa nuit, dans la chambrée, son dégoût, ses malaises, ses nausées, ses suffocations. « Ne pouvais-tu donc supporter ce que les autres acceptent ?»
Les autres n'ont sans doute pas vécu comme moi en plein air, car je vous assure que je ne suis difficile en rien, ni sur rien, et que la misère m'a appris à tout endurer. Je serai morte, et je ne pense pas que ce soit une lâcheté d'essayer d'échapper à la mort.
La chambrée de Françoise est-elle donc si malsaine ?
Ah, monsieur, si vous pouviez la voir, vous ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là.
Continue. Elle passa à sa découverte de l'île et à son idée de s'installer dans l'Aumuche.
« Tu n'as pas eu peur ?»«
Je suis habituée à n'avoir pas peur. »«
Tu parles de l'entaille qui se trouve la dernière sur la route de Saint-Pipois à gauche ?»«
Oui, monsieur. »«
Cette Aumuche m'appartient et elle sert à mes neveux. C'est donc là que tu as dormi ?»«
Non seulement dormi, mais travaillé, mangé, même donné à dîner à Rosalie qui pourra vous le raconter. » Je ne l'ai quitté que pour Saint-Pipois quand vous m'avez dit de rester à la disposition des monteurs et cette nuit pour loger chez mère Françoise où je peux maintenant me payer un cabinet pour moi seule.
Tu es donc riche que tu peux donner à dîner à ta camarade?
Si j'osais vous dire...
Tu dois tout me dire.
Est-il permis de prendre votre temps pour des histoires de petites filles?
Ce n'est pas trop court qu'est le temps pour moi. « Depuis que je ne peux plus l'employer comme je voudrais. C'est long, bien long et vide. »
Elle vit passer sur le visage de M. Vulfranc un nuage sombre qui accusait les tristesses d'une existence que l'on croyait si heureuse et que tant de gens enviaient, et, à la façon dont il prononça le mot « vide », elle eut le cœur attendri. Elle aussi, depuis qu'elle avait perdu son père et sa mère, pour rester seule, savait ce que sont les journées longues et vides, que rien ne remplit si ce n'est les soucis, les fatigues et les misères de leur présente, sans personne avec qui les partager, qui vous soutiennent ou vous aiguaient. Lui ne connaissait ni fatigue, ni privation, ni misère. Mais sont-elles toutes au monde et n'est-il pas d'autres souffrances, d'autres douleurs? C'était celle-là que traduisaient ces quelques mots, leur accent et aussi cette tête penchée, ses lèvres, ses joues affaissées, cette physionomie allongée par l'évocation sans doute de souvenirs pénibles. Si elle essayait de le distraire, sans doute cela était bien hardi à elle qui le connaissait si peu. Mais pourquoi ne risquerait-elle point, puisque lui-même demandait qu'elle parlât, d'égayer ce sombre visage et de le faire sourire? Elle pouvait l'examiner, elle verrait bien si elle l'amusait ou l'ennuyait. Et tout de suite, d'une voix enjouée, qui avait l'entrain d'une chanson, elle commença. Ce qui est plus drôle que notre dîner, c'est la façon dont je me suis procuré les ustensiles de cuisine pour le faire cuire, et aussi comment, sans rien dépenser, ce qui m'eût été impossible, j'ai réuni les mets de notre menu. C'est cela que je vais vous dire, en commençant par le commencement, qui expliquera comment j'ai vécu dans l'Aumuche depuis que je m'y suis installé. Pendant son récit, elle ne quitta pas M. Vulfranc des yeux, prête à couper court si elle voyait se produire des signes d'ennui qui certainement ne lui échapperaient pas. Mais ce ne fut pas de l'ennui qui se manifesta, au contraire, ce fut de la curiosité et de l'intérêt. «
Tu as fait cela ? » interrompit-il plusieurs fois. Alors il interrogea pour qu'elle précisât ce que, par crainte de le fatiguer, elle avait abrégé, et il lui posa des questions qui montraient qu'il voulait se rendre un compte exact, non seulement de son travail, mais surtout des moyens qu'elle avait employés pour remplacer ce qui lui manquait. « Tu as fait cela ?» Quand elle fut arrivée au bout de son histoire, il lui posa la main sur les cheveux. « Allons, tu es une brave fille, dit-il, et je vois avec plaisir qu'on pourra faire quelque chose de toi. Maintenant, va dans ton bureau et occupe ton temps comme tu voudras. À 3 heures, nous sortirons. »